Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. En ces temps troublés, après une pandémie et avec cette guerre en Ukraine, on a tous besoin, bien sûr, de se divertir, de s'amuser, de sortir, d'aller au cinéma, de lire, d'aller boire un verre avec les amis, de manger dans un bon restaurant, et puis de rencontrer, de parler avec d'autres. Et puis surtout lire, bien sûr. Vous savez que ça, je ne vous en empêcherai jamais et je vous encouragerai toujours à le faire. Pour lire, eh bien, vous pouvez passer une nuit sans aube, sans problème, si le livre vous tient à la gorge, comme celui dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, je n'ai pas fait une nuit sans aube, je n'ai pas fait non plus une nuit sans sommeil, mais c'est vrai qu'il m'a tenu en haleine et cela m'a permis d'aller à la rencontre d'un nouvel auteur que j'ai apprécié de par la justesse de son écriture, de son élégance, de ses personnages très attachants. Et maintenant que j'ai un petit peu parlé avec lui au travers du livre, je comprends maintenant qui est l'auteur de ce livre. Bonjour Benoît Dalloin.
Bonjour, enchanté.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour ces deux ailes,
merci de me recevoir.
Pour Délivrez-vous, pour votre roman Une nuit sans aube aux excellentes éditions XO. Voilà. Alors, on va un petit peu parler de vous. Vous vous baladez, je crois, entre Paris et New York. Vous êtes né à Toronto. Vous êtes franco-américain. Peut-on dire ça de vous?
Alors, en fait, je suis français et canadien.
Français
et canadien.
Je suis
né à Toronto, mais je ne suis pas du tout américain. En
D'accord.
général, les Américains n'aiment pas beaucoup les Canadiens qui restent en France.
D'accord. OK. OK. Et donc, vous êtes né à Toronto, donc.
Voilà. Je suis né à Toronto, donc c'est ma langue natale est l'anglais, mais mes parents parlent français. Donc, c'est vrai que j'ai baigné rapidement dans les deux cultures et dans les deux langues.
Et aucun accent canadien.
Non, parce que je suis pas du Québec, donc
oui,
je suis vraiment de Toronto,
d'accord.
donc les gens ne parlaient pas québécois autour de moi, donc j'ai pas cet accent.
D'accord.
Je peux le prendre si vous voulez, mais bon,
c'est
un peu drôle.
Non, après. ça va aller. Alors, vous m'avez dit hors antenne que l'écriture, ça n'était pas votre métier, vous avez fait du commerce et puis l'histoire de l'art. Je dirais que ce premier roman est vraiment réussi, je le disais dans le préambule, parce que il y a de la justesse, les personnages, l'ambiance, hein, déjà dans le prologue, l'ambiance est donnée. On a peur, on court avec ce pauvre jeune homme, hein, on va parler un peu de l'intrigue. Alors, vous doutez bien qu'un thriller, on tourne autour de la chose, hein, pour en dévoiler le moins possible, mais pour donner l'envie et le goût aux auditrices, auditeurs de lire. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans l'écriture, Benoît? Quel a été le déclic et la genèse aussi, en fait, la genèse de ce livre?
Alors oui, effectivement, comme vous dites, c'est pas du tout mon métier. Moi, en fait, je suis directeur marketing dans une boîte de grande boîte de cosmétiques à New York. Donc, je suis plutôt proche du produit. Je lance des produits.
Ouais.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le Covid est arrivé un peu après aux États-Unis, enfin, dans le sens où on l'avait, mais voilà, il y avait deux virus puisqu'on avait le Covid et on avait Trump, si je veux dire, qui disait que le Covid n'existait pas.
Ouais.
Et en fait, moi, je l'ai attrapé tout de suite. Vraiment le premier jour de télétravail, alors que voilà, en France, vous étiez déjà confiné depuis longtemps.
Mm-hmm.
J'ai eu 41 fièvres, j'ai dû aller à l'hôpital. Et là, voilà, comme autour de moi, je me rendais compte que les gens ne prenaient pas du tout ça au sérieux, puisque vraiment, encore une fois, le gouvernement en place aux États-Unis disait que ça n'existait pas. Tout le monde m'a dit non, mais il faut rentrer en France, rentrer dans une social-démocratie, etc., etc. Donc dès que j'étais plus malade, dès que j'étais plus contagieux, j'ai pris un avion. Et je suis parti me mettre chez mes parents, donc qui habitent à la campagne près de Nantes.
Mmh.
Et du coup, comment? En fait, on m'avait dit que j'étais plus contagieux pour prendre l'avion, mais j'avais encore des symptômes.
Mmh.
Je vous épargne les détails, mais j'avais peur de contaminer mes parents, donc je me suis vraiment enfermé dans ma chambre.
Ouais.
Et du fait du décalage horaire, je ne travaillais que l'après-midi pour être sur le fuseau horaire américain.
Mmh.
Et du coup, le matin, j'ai eu du temps. Et en fait, j'ai eu besoin de raconter tout ce que j'avais vécu, tous les gens que j'avais côtoyés aux États-Unis. C'est comme ça qu'a débuté l'écriture du livre.
D'accord. Alors, vous travaillez, je crois, pour une grande maison de cosmétiques, hein, si j'ai bien compris la
Exactement.
Chose. C'est ça. Voilà,
ça va. Pour l'odeur, je ne sais pas si on peut le dire.
Mais... Ben oui, très bien. En plus, c'est une des premières, je crois, pionnières hein, dans le monde de la cosmétique, Esther Lauder, je crois, de mémoire.
Exactement. C'est surtout une femme qui a fondé une grande entreprise de cosmétiques.
Tout à fait. Voilà. Mais je sens que vous allez être très intéressant, mon cher Benoît. Je rigole. Alors, venons-en donc à ce livre, à ce thriller. C'est une nuit, comme le titre l'indique. Catherine est chez elle, le téléphone sonne et un homme au bout du fil lui annonce que son fils Alexis est dans le coma. qu'elle a déjà pris les billets d'avion et qu'il faut qu'elle vienne. Alors bien sûr, le grand étonnement, elle ne le connaît pas, elle ne sait pas qui il est, elle ne comprend pas. Et en fait, votre livre va tourner autour du secret de famille, comment on déroule les choses, comment on s'approprie les choses. C'est aussi un petit peu le retour sur soi, les questions. Alors je disais, le prologue est assez glaçant, parce que en fait, ce jeune homme se promène sur un pont. C'est dans une forêt au nord, dans l'État de New York, au nord de New York. C'est une forêt assez sympa, visiblement, et puis il y a un pont. Mais aucune voiture piéton ne peut se croiser. Et il va se faire renverser. Voilà, je raconte pas tout le prologue parce que vraiment la description est assez terrifiante, mais je laisse le soin.
Si vous voulez, je peux juste dire quelque chose. Effectivement, oui. Il y a beaucoup de ponts dans cette région parce que je la connais bien, qui sont des ponts industriels, un peu à structure Eiffel et à plancher en bois, et qui ont été construits avant les voitures. Donc en fait, les piétons et les voitures ne peuvent pas se croiser.
Bien sûr.
C'est l'été indien, il fait beau, il est dimanche, le jeune homme donc se promène tranquillement et une voiture s'approche du pont.
Oui.
Donc il fait des signes pour que la voiture le voie, il pense qu'elle va s'arrêter.
Une Mercedes noire.
Exactement, elle roule vers lui, alors il se serre contre la rambarde et la voiture ne fait que les fleurettes.
Oui.
Donc il pense que le danger est passé.
Oui.
Et quand il crie un peu sur la voiture en disant non mais ça va pas la tête, etc. Et quand la voiture arrive au bout du pont, elle fait demi-tour et elle revient sur lui. Mm-hmm. Et là il comprend qu'elle ne l'avait pas effleuré par mégarde, mais parce qu'elle voulait vraiment le percuter. Et donc voilà, il court, mais la voiture le rattrape, le percute. Et il tombe effectivement sur le sol, on voit un peu de sang sur le bois.
Oui.
Et c'est la fin du prologue.
Oui. Voilà.
Et comme vous le disiez, voilà, le premier chapitre commence avec sa mère, qui est appelée en plein milieu de la nuit à cause du décalage horaire. Oui. On lui apprend que son fils est dans le coma. Mmh.
Et là, toute l'histoire commence parce qu'elle ne connaît donc pas le personnage, la personne qui l'appelle. Elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, comment les choses vont se passer, comment vont se dérouler. Et en fait, c'est tout. Alors, il y a une chose aussi dans le prologue, je ne sais pas si on peut le dire, mais malgré tout, je pense que si, c'est que le jeune homme voit la personne au travers du pare-brise.
Ah, vous avez bien analysé la chose, oui, c'est très intéressant.
Et il voit le visage. Et à partir de là, bien évidemment, l'imagination va galoper, bien évidemment.
Oui, et si vous allez même plus loin, il voit le visage. Et alors qu'au moment, quand il criait en anglais, il disait « stop it, you stop it », il crie en anglais, et quand il voit le visage, il se met à crier en français.
Oui, il se met à crier en français, oui. Alors, on n'en dira pas plus, voilà. Oui, alors vous disiez, vous c'est une partie, un coin des États-Unis que vous connaissez bien. Comme souvent, quand on allie une histoire avec des personnages et un paysage, les paysages, les ponts, l'eau, ce que vous voulez, devient des personnages à part entière. Et là, ce qui est incroyable, c'est que avec un pont, vous avez... Ça emplit le livre dans son entier et le pont devient un personnage à part entière. Et ça, j'ai trouvé ça très fort.
C'est très intéressant. Le titre que j'avais pensé au début, puis j'ai changé, était un pont entre deux rives.
Oui.
Puisqu'il y avait effectivement ce pont, puis il y aura d'autres ponts dans l'histoire.
Oui.
Mais il y a surtout la maman, donc, qui s'appelle Catherine
hein,
qui, en fait, sans le vouloir, est un petit peu un pont entre son fils et cet inconnu qui appelle. Donc son fils s'appelle Alexis. Cet inconnu qui s'appelle Marc, qui lui appelle pour lui annoncer que son fils est dans le coma.
Alors, une nuit sans eau, parce que c'est une nuit qui ne semble jamais finir. C'est vrai que nous, lecteurs, on essaye d'aller au bout des choses. C'est assez haletant. Toute la question va se faire autour de cet appel, de cet homme qu'elle ne connaît pas. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est que il a pris les billets d'avion en étant persuadé qu'elle viendrait. C'est ça aussi qui est assez intéressant.
Oui, en fait, il est très proche, lui aussi, d'Alexis. Il se trouve qu'il est lui aussi en France.
Oui.
Et que lui aussi, son premier réflexe, c'est de vouloir aller au chevet d'Alexis.
Oui.
Donc, il a pris le premier vol Charles de Gaulle JFK à 7h du matin. Et il se doute que sa mère va vouloir faire la même chose. Et comme, voilà, c'est quelqu'un qui est, j'allais dire, assez autonome, qui a réussi dans sa vie, etc. Spontanément, il a aussi pris un billet pour les parents d'Alexis en se disant qu'il va pas aller les prendre. Mais il s'avère que sa mère est en fait seule chez elle parce que le père est absent, le père fait un voyage lointain.
Oui.
Et donc du coup, ça faisait une sorte de huis clos. Mmh. Et en fait, une fois qu'elle a vérifié les informations, c'est-à-dire qu'elle a appelé l'hôpital et qu'elle a compris que son fils était bien dans le coma.
Voilà,
elle se dit qu'elle a pas le choix parce que elle aussi veut prendre le premier avion pour New York et elle se voit pas conduire dans cet état. On peut pas appeler un taxi au milieu de la nuit. Donc voilà, même s'il y a quelque chose dans la voix de cet homme qui la dérange, même si ses explications pas très claires non plus sur pourquoi Alexis est dans le coma et pourquoi on l'appelle que maintenant.
Oui.
Parce qu'en fait, beaucoup de temps s'est écoulé. Mmh. Elle décide de faire confiance et elle ferme sa maison, elle sort de chez elle et elle l'attend dans son jardin.
Mmh. Alors, dans ce
milieu de la nuit.
Oui, dans ce livre, il y a justement beaucoup de choses. Il y a la famille, le secret de famille, la confiance, la résilience, mais il y a une forme d'espérance aussi.
Oui, ça me fait plaisir que vous disiez ça parce que effectivement, le titre pourrait penser que c'est un livre un peu plombant.
Oui.
Pas du tout.
Non.
Parce qu'en fait, tous les gens qui le lisent ressortent, presque avec un sourire aux lèvres, parce que c'est effectivement un livre plein d'espoir, plein d'espérance, et aussi plein de lumière. Parce que ce qui est intéressant, c'est que, enfin, je pense du moins, donc on a les premiers chapitres qui s'ouvrent avec Catherine qui est appelée, et ensuite le second chapitre, c'est l'enfance de cette personne qui l'a appelée, donc c'est la vision de Marc, et le troisième chapitre, c'est l'enfance de son fils, Alexis. Et ensuite, ça va tourner comme ça, on aura toujours un chapitre sur Catherine, qui est dans le présent, donc elle qui va monter dans la voiture, traverser l'océan, arriver au chevet de son fils à l'hôpital, et en fait, les deux autres personnages qu'on va voir dans le passé, qu'on va voir grandir, quel moment aussi ils se rencontrent, etc. Et eux, à l'inverse de Catherine, ne sont pas du tout dans la nuit. Marc vient de Corse, on le voit grandir en Corse, ensuite il s'installe à Nice, quand des personnages vont se rencontrer, ça va d'abord être sur la Riviera française, puis en Italie, sur la côte amalfitaine.
Tout à fait.
C'est aussi un livre qui sent bon les parfums et qui a la lumière de la Méditerranée, c'est pas du tout un livre sombre.
C'est vrai. Alors, ça m'a fait penser à une sorte de tourbillon. Voyez, il y a d'un côté l'image de maintenant, du lieu, de l'instant, et puis en arrière-plan, les images du passé, de l'histoire de ces personnages. Mais ce qui est assez agréable aussi, c'est que, je disais, le pont est un personnage, les paysages sont des personnages. Il n'y a pas trop de personnages, parce que parfois, trop de personnages tuent les personnages, parce que on ne sait plus qui, quoi. Tandis que là, on est concentré sur un nombre assez restreint de personnages, et on peut d'autant plus s'y attacher, et d'autant plus suivre leur histoire.
Oui, c'est très bien. En fait, je ne voulais pas qu'il y ait trop de personnages, je voulais vraiment que ce soit cette espèce de trio, j'avais cette idée que tout devait fonctionner autour du chiffre 3, donc Catherine, Marc et Alexis, et qu'effectivement, comme vous le dites, ça parle des secrets de famille, ou des dissimulations, parce que ce sont plus des gens qui se sont arrangés avec la vérité, il y a des histoires de rendez-vous manqués, mais il n'y a pas des gens qui ont voulu sciemment mentir, enfin, des choses ont pris de l'importance, ils ont été entraînés, si je puis dire, dans leur dissimulation. On n'a pas non plus caché des meurtres ou des abominations. Et donc, vous avez ces trois personnages, et c'est une sorte de huis clos, en fait, autour d'eux. Et de même qu'il y a trois personnages, il y a trois parties qui correspondent, en fait, à l'itinéraire que vont faire, effectivement, Catherine, du coup, et Marc. Donc, il y a Loire-Atlantique, quand elle est chez elle à Nantes. Atlantique, quand ils sont tous les deux dans l'avion. Et enfin, Outre-Atlantique, quand ils arrivent à New York.
Quand ils arrivent à New York, oui. Alors, bien écoutez, j'espère que personne ne partira à New York durant cette petite pause musicale. En tout cas, elle ne partirait pas sans moi parce que j'adore New York et nous nous retrouverons tout de suite après.
Savoir sourire à une inconnue qui passe. N'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Savoir aimer, sans rien attendre en retour. Ni la gare, ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé. Mais savoir donner, donner sans reprendre. Ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, s'en aller. Goûter à ce plein bonheur qu'on vous donne comme par erreur, dont on ne l'attendait plus. y croire, pour tromper la peur du vide, entrer comme autant de rides qui ternissent les miroirs. Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Savoir souffrir en silence sans murmure, ni défense ni armure, souffrir à vouloir mourir, se relever comme on renaît de ses cendres, avec tant d'amour à revendre, qu'on tire un trait sur le passé. Mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Apprendre à rêver, à rêver pour deux, rien qu'en fermant les yeux, et savoir donner, donner sans rature ni demi-mesure, apprendre à rester, vouloir jusqu'au bout, rester malgré tout, apprendre à aimer, s'en aller.
Nous nous retrouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes, pour le roman de Benoît Dalloin, Une nuit sans aube, aux éditions IXO. Alors, moi, ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est que, comme c'est une forme, effectivement, de trio, de huis clos, et que vous avez écrit, vous nous expliquiez ça durant le vous êtes rentré en France, il y a eu le confinement, est-ce que, justement, cet état de Covid, de pandémie, de confinement, n'a pas aidé aussi à l'histoire de ce huis clos, en tout cas de ces personnages restreints, voyez, de cette bulle un petit peu.
Sans doute. Il y a je pense qu'avec le Covid, on a tous eu un peu la volonté de ne pas s'éparpiller.
Oui.
Et c'est vrai que moi, je vivais à New York, et à New York, vous savez, les gens...
Je connais New York, oui.
En père comme ça, voilà. Mm. Ils travaillent trop, ils sortent trop, ils datent trop, enfin, ils font tout trop, en fait. Il y a une sorte de frein d'arrêt, tout s'est arrêté.
Ouais.
J'ai besoin, voilà, de raconter ça. Alors, c'est pas du tout, bien sûr, ma vie, j'ai jamais été dans le coma.
Je vous le souhaite.
J'ai caché des choses à mes parents, mais pas dans ces proportions. et voilà, il y a forcément un peu aussi de vécu, je pense.
Bien
que, de
sûr.
Toute façon, comme on dit, on n'écrit jamais vraiment, on se raconte toujours, sans
oui,
le vouloir.
C'est vrai. Bah, je suis sûre que vous êtes déjà promené sur un pont, peut-être d'ailleurs dans cet état, et que vous aimez la nature. D'ailleurs, c'est très joliment décrit. Hein. J'ai beaucoup aimé ce vol des tourneaux. Et quand vous dites que les New Yorkais, les Américains parlent de murmuration, j'ai trouvé ça très joli.
Oui, alors je crois que c'est un terme qu'on emploie aussi parfois en français, c'est quand effectivement tous les étourneaux se rejoignent, vous savez, en octobre en France, et aussi en outre-Atlantique, et qui volent, et que ça ressemble presque plus à des bancs de poissons dans le ciel qu'à des oiseaux, en fait, tellement ils sont coordonnés. Et effectivement, alors je ne sais pas si vous avez suivi ça aussi, mais il est très proche, en fait, de son grand-père, qu'il est enfant, il apprend Alexis. Et son grand-père aime beaucoup les oiseaux, donc il lui apprend à observer les oiseaux, etc. Mmh. Et à partir du moment où malheureusement son grand-père décède, il a l'impression que souvent son grand-père, quand il voit des oiseaux, il a l'impression que son grand-père veut lui dire quelque chose, comme si la nature lui murmurait quelque chose à l'oreille.
C'est vrai.
D'où le terme.
D'où l'hommage que vous faites à vos grands-pères au début du livre, en disant à mes deux grands-pères qui sont partis aujourd'hui, mais qui n'ont jamais été vieux.
Oui, alors malheureusement, je les ai perdus tous les deux à cause du Covid à quelques mois d'intervalle.
Ouais.
Et voilà, comme je pense, ce que j'écrivais, ils sont vraiment morts sans jamais avoir été vieux parce qu'ils avaient toujours la jeunesse au fond d'eux. Et voilà, mon grand-père me dit souvent, de toute façon, quand on est jeune, c'est pour la vie. Mmh,
c'est vrai. Alors, ce qui ressort aussi de ce livre... c'est un extrême enthousiasme, alors extrême dans le bon sens, bien évidemment, un extrême enthousiasme, une vigueur, une vivacité et un amour de la vie incommensurable.
Ah, c'est amusant que vous me disiez ça. Je pense que c'est, sans le vouloir, c'est aussi un petit peu ma personnalité. Pour ne rien vous cacher, moi, on me dit souvent au travail, dans mes évaluations de fin d'année, que je suis un optimiste déterminé.
Oui.
Ça veut dire que je suis très optimiste, je pense toujours que tout est possible, mais il y a quand même une forme de, voilà, je suis assez adulte. Oui. Donc je sais que, voilà, la vie a des ups and downs, mais qu'il faut apprendre à faire avec, et donc il y a une forme de détermination, si vous voulez, dans cet optimisme. C'est pas quelque chose de plus candide non plus.
Mais on sent justement au travers de ces personnages cette détermination, c'est-à-dire vouloir découvrir les choses, vouloir raconter, vouloir aller au bout des choses, mais sans noirceur. Parce que, effectivement, on aurait pu tomber dans le thriller, parfois où il arrive des tas de choses pas très belles, mais il n'y a pas de noirceur. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une énigme, il y a un suspense, ça assez haletant, qui est parfois un petit peu étouffant, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit tout d'un coup qu'on s'arrête de respirer, on reprend sa respiration, mais il n'y a pas de noirceur. C'est assez fluide, et en même temps, il y a beaucoup de beauté, finalement, entre les personnages, d'une certaine façon.
Merci. Oui, je pense que, bon, effectivement, ça s'appelle Une nuit sans aube, et je pourrais expliquer pourquoi je choisis ce titre, mais c'est vrai que c'est un roman qui est haletant, comme vous dites, mais qui est assez solaire.
Oui.
Et même si ça commence comme un thriller, c'est rigolo, c'est que la plupart des personnes qui l'ont lu nous disent, j'ai commencé comme un thriller, mais en fait, après, par-dessus, il y a une histoire d'amour, il y a des considérations sociologiques,
et j'en suis
un peu chamboulée parce que, j'ai été happée par quelque chose, et en fait, j'ai été entraînée dans plein d'autres choses auxquelles je ne m'attendais pas.
Ouais.
Et voilà, c'est quelque chose d'un peu inclassable, ce livre, en fait.
C'est exactement comme ça que j'ai vécu les choses. Ça a commencé par un thriller, je me suis dit, alors accrochons-nous, et puis au fur et à mesure du temps, bien sûr, on continue de s'accrocher, mais on s'accroche plus à la vie, plus à l'optimisme, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'amour dans ce livre. Quand vous avez refermé Une nuit sans aube, je suppose que le jour était levé, si je puis dire, le jour était levé, j'ai l'impression que vous avez eu du mal à quitter cette histoire, à laisser Catherine, Alexis, ça a été un peu compliqué. Alors, je suppose que vous allez continuer à écrire, et il faut pour notre plus grand plaisir, mais ça a été un peu difficile pour vous de refermer le livre ?
Ça a été un peu difficile parce qu'en fait, on m'avait souvent dit tu devrais écrire, j'ai beaucoup de frères et sœurs, dès que je fais un discours de mariage, après on me dit oh là là, tu devrais écrire, donc je prétendais qu'il fallait faire quelque chose, et c'était très fluide.
Ouais.
Non mais c'est vrai, c'est un peu idiot de dire ça, mais c'est arrivé comme ça, et ça a été très fluide d'écrire, c'est-à-dire que, en fait, quand vous écrivez, comment font les autres, et j'ai pas non plus l'impression d'être un écrivain, mais bon, même si j'écris un livre, on vit un peu avec ces personnages, donc il se passe des semaines, des mois, on pense comment ils réagiraient, etc., etc., et on vit un peu avec eux, et en plus, là, c'était le Covid, donc je voyais pas grand monde, quand on termine le livre, c'est comme si nos amis étaient partis, en fait, je sais pas si vous êtes habitué à être en colocation avec quelqu'un et il s'en va. C'est un peu pareil quand vous finissez un livre.
Ouais. Moi, je suis en colocation avec mon mari. Mais...
c'est bien aussi. Je vous fais une petite partie. Vous avez raison. Donc, en fait, quand on termine un livre, après, déjà, le livre ne nous appartient plus.
C'est vrai.
C'est intéressant. C'est vrai. Des gens le lisent, se l'approprient, parlent des personnages. Il faut le laisser partir.
Tout à fait, c'est vrai. Alors, j'espère que vous avez déjà une idée pour le prochain, quelque part dans les cartons, au fond d'un tiroir ou bien en vue sur l'ordinateur.
Oui, bien sûr, j'ai déjà une idée, j'ai déjà commencé à m'y mettre.
Oui.
Je pense que ce sera un peu dans le même genre, si je puis dire, que Voilà, comme là on disait effectivement, il y a un thriller, les pages se tournent très vite, c'est un peu oui. côté page turner à l'américaine,
c'est vrai.
Un côté un peu mmh. américain qui déteint, mmh. mais j'ai besoin d'aborder un sujet de fond. Et mmh. là, je pense que c'est surtout ce que les gens retiennent, c'est ces considérations, comme vous l'avez dit, sur l'amour, mmh. L'amour aujourd'hui, mmh.
L'espérance,
dans une entreprise,
l'espérance aussi, oui. mmh. c'est vrai.
Mmh. Les différences de culture, et le prochain, voilà, c'est pareil, on abordera des thèmes importants, mais ce sera toujours sur cette même mécanique. Mmh.
Alors cette même mécanique, peut-être parce que vous allez l'écrire dans d'autres, même mécanique, mais peut-être avec un regard, une approche différente, parce que en 2 ans, les choses ont changé aussi. On se retrouve dans une période totalement différente et un peu angoissante aussi.
Oui, c'est vrai que parfois, quand on regarde les informations, là, quand même moi, entre la guerre en Ukraine, on a l'impression que personne ne veut leur venir en aide par crainte de la Russie. Enfin, mmh. en plus, moi, voilà, en ce moment, je suis à Nice, il y a beaucoup d'Ukrainiens, il y a beaucoup de Russes, parce que traditionnellement, il y a toujours eu beaucoup. Donc,
oui.
voilà, on sent vraiment que c'est présent. Mmh. Puis après, on va regarder ce qui se passe dans l'Antarctique, où il fait 40 degrés de plus que les normales saisonnières.
Incroyable. Ouais.
Et que tout le monde s'en fout. Mmh. Oui, il y a pas mal de sujets, mais encore une fois, il y a aussi beaucoup d'initiatives. Mmh. Que ce soit les Ukrainiens, je sais que là, ils sont très très bien, moi j'ai participé très très bien accueillis à Nice, il y a plein de choses qu'ils font. Mmh. Le réchauffement climatique, il y a plein d'initiatives personnelles ou privées. Enfin, moi, dans mon travail, c'est du grand cheval de bataille. Mmh. Donc, je suis plein d'espoir.
Oui, il vaut mieux. Surtout dans le monde de la cosmétique, où normalement c'est la beauté que l'on entretient, que l'on parfère, que l'on bonifie. C'est sûr que il vaut mieux effectivement voir les choses du bon côté. Alors, moi, pour parler de Catherine aussi, c'est une femme que j'ai trouvée assez mystérieuse, attachante certes, mais très mystérieuse, un peu évanescente. Bon, il y a ce fils hein, qui est dans le coma. Elle reçoit cet appel en pleine nuit, mais je l'ai trouvée pas détachée, mais elle est un petit peu au-dessus des choses, comme ça, vous savez. Je l'imaginais un peu évanescente, blonde, habillée de blanc. Je sais pas comment expliquer ça. Je l'ai trouvée légère, mais pas dans l'esprit, légère dans le personnage, dans ce qu'elle est en tant que femme. Je ne sais pas si je suis assez claire.
Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Bah, je pense que Catherine, c'est une femme qui n'a jamais vraiment connu de graves difficultés dans sa vie.
Oui.
Voilà, elle a eu 4 enfants, ça va très bien avec son mari. Mmh. Elle se rend compte qu'elle a de la chance, donc elle fait aussi beaucoup de choses pour aider les autres.
Oui.
Mais voilà, comme elle voit tout du bon côté, on peut se poser la question de est-ce qu'elle voit tout du bon côté parce qu'il n'y a pas de problème, ou est-ce qu'elle voit tout du bon côté parce qu'elle a décidé de ne pas voir les problèmes, en fait.
C'est ça. Oui, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais elle voit trop bien les choses, c'est trop bien, c'est trop lisse. Et je me suis dit, ça cache quoi? En fait, je me suis posé la question.
Voilà, il y a une forme un peu de naïveté, parce que je pense qu'elle a été très protégée, très entourée, peut-être par son mari, etc.
Oui.
Et là, en fait, elle se retrouve face à elle-même, parce que son mari n'est pas là, il est injoignable.
Oui.
Son fils est dans le coma à New York. Elle ne parle pas très bien anglais.
Oui.
La seule façon d'y aller, c'est avec cet homme qui en plus lui semble louche, donc elle n'est pas complètement rassurée, mais elle-même est dans ce côté, c'est un peu une sorte de problème familial, hein, qu'ils ont de ne pas trop déranger les gens, de ne pas trop alarmer. Donc par exemple, elle ne va pas le dire à ses 2 enfants, pour ne pas les inquiéter.
Tout à fait.
Elle prend l'avion sans leur dire, c'est quand même étonnant. Elle va voir leur frère qui est à New York,
qui est dans le coma. Ouais. Mais il y a aussi quelque chose d'assez fort, qui est toujours difficile à prendre, en fait, vous savez, c'est prendre une décision. Alors, c'est pas la décision de tiens, je sors, je vais chercher une baguette ou acheter un journal. Là, c'est quand on est face à quelque chose d'important, c'est la phase de la décision. De quelle façon on atteint cette décision, de quelle façon on la prend. Et là, Catherine, c'est ça. En fait, elle est quasiment face aussi à un personnage qui est la décision. Y aller ou ne pas y aller. Et ça, c'est très important aussi dans le livre.
Oui, il y a beaucoup de moments, en fait, où ils doivent prendre des décisions, tous.
Oui.
Et ça arrive souvent, même quand voilà, Marc se dispute avec son père et décide de quitter la Corse, il a pris une décision. Mmh. D'ailleurs, il y a une phrase, je devrais peut-être me souvenir parce que c'est moi qui l'ai écrite, mais je ne me souviens pas, mais qui dit quelque chose du genre, voilà, il y a des heures longues et interminables où il ne peut pas faire rien.
C'est ça.
Et il y a des minutes précises qui doivent changer.
Qui doivent changer, c'est ça. Oui, en gros, c'est ça. C'est ça. Mais c'est très vrai, dans votre livre, c'est très présent. En fait, je me rends compte, en parlant avec vous, que dans ce livre, il y a tout ce qui représente comment dirais-je, l'esprit humain, enfin ce que nous sommes, vous voyez, entre l'espoir, la confiance, l'espérance, prendre des décisions, prendre sa vie en main. En fait, c'est un livre qui est...
Oui, il y a la peur, l'amour, oui, il y a beaucoup, beaucoup
oui.
de choses.
Oui, c'est un livre qui représente vraiment notre société actuelle, je trouve, dans les sentiments, dans le rapport aux gens.
C'est vrai que c'est beaucoup des commentaires qu'on a, que c'est un livre qui est très, très juste sur la société actuelle, parce qu'il y a un peu tout. Il y a l'histoire de famille, il y a l'histoire d'amour, il y a l'histoire d'accepter les différences.
C'est ça.
Voilà, il y a un peu la désémination dans le monde du travail.
Oui.
Là, ils travaillent dans des grandes boîtes, ils ont l'impression d'être des pions, un peu de perte de sens aussi qu'on ressent souvent chez les gens.
C'est vrai.
Et par-dessus ça, il y a l'amour de la vie, l'amour de la Méditerranée, l'amour du soleil, il y a surtout, c'est un peu la théorie du livre, que oui, la vie n'est jamais simple pour personne,
c'est vrai.
Mais que finalement, voilà, c'est l'amour qui sauve. Et d'ailleurs, le grand-père, c'est toujours le grand-père, le dit à son petit-fils, il dit à un moment, dans la vie, en fait, à la fin, tu te rendras compte, rien n'a d'importance.
Oui.
La seule chose que tu emportes avec toi, c'est l'amour
c'est
que
l'amour,
tu as donné.
Tout à fait. Et que tu as reçu.
Et que tu as reçu.
Oui, absolument. En tout cas, moi, je suis ravie parce que j'ai rencontré un auteur qui donne beaucoup et à qui on a envie de beaucoup donner en lisant votre livre, Une nuit sans aube aux éditions XO. Ça a été un vrai bonheur de vous rencontrer, cher Benoît, voilà, pour ce magnifique livre aux multiples rebondissements, aventures, rapports aux gens. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour un prochain livre. Voilà.
Merci beaucoup, je vous dis à très vite aussi, merci.
Merci. Une nuit sans aube de Benoît Dalloin aux éditions XO. Quant à nous, nous nous retrouvons une prochaine fois pour une nouvelle aventure. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.